Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, voici Une vie, une œuvre. Avec aujourd'hui la deuxième étape de notre parcours entre différents auteurs pour enfants. Et cette semaine, nous parlons de Carlo Collodi, l'inventeur de Pinocchio. Alors Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, on le connaît assez peu en France, en tout cas de manière parcellaire puisqu'il n'a pas été complètement traduit. Parmi les traductions en français, il y a bien entendu Pinocchio, il y a aussi Pipi ou Le Petit Singe Couleur de Rose, ça ce sont les textes pour enfants, mais il y a également Les Mystères de Florence, un autre texte féroce, celui-là pour les adultes. Collodi a beaucoup écrit, il a beaucoup lu aussi toute sa vie, pas seulement de la fiction d'ailleurs, puisqu'il a été journaliste, il a même dirigé lui-même des journaux. Et à la fin de sa vie, il était nommé à la commission de censure théâtrale à la préfecture de Florence, après avoir lui-même eu à subir dans sa jeunesse les affres de la censure. Pascal Charpentier vous propose donc aujourd'hui le portrait de l'homme et de son œuvre, en évoquant bien sûr très largement Pinocchio. Nous serpenterons pour ce faire à travers les multiples adaptations de ce conte au cinéma. Il y en a eu tout de même 17, chaque fois avec une interprétation un petit peu différente, interprétation dont nous vous proposons de découvrir certaines des différentes facettes. Carlo Collodi, papa de Pinocchio et écrivain libertaire, Pascal Charpentier, Ghislaine David.
Dis-moi, mon petit, que fais-tu là? Tu ne le vois pas? Je pleure, dit Pinocchio en levant la tête vers cette voix et en se frottant les yeux avec la manche de son paletot. Dis-moi, ajouta le pigeon, ne connais-tu pas, par hasard, parmi tes camarades, un pantin nommé Pinocchio? Pinocchio, tu as dit Pinocchio, répéta le pantin, se relevant d'un bond sur ses pieds. Mais c'est moi, Pinocchio! À cette réponse, le pigeon se laissa descendre à toute vitesse et vint se poser à terre. Tu connaîtrais donc aussi Geppetto ? Demanda-t-il au pantin. Si je le connais, c'est mon pauvre papa. Il t'a peut-être parlé de moi ? Réponds-moi par pitié, est-il toujours vivant ? Je l'ai laissé il y a 3 jours sur la plage au bord de la mer. Que faisait-il ? Il était en train de fabriquer de ses propres mains une petite barque pour traverser l'océan. Le pauvre homme, voilà plus de 4 mois qu'il court le monde à ta recherche, et comme il n'a jamais pu te retrouver, il s'est maintenant mis dans la tête de te chercher dans les lointains pays du Nouveau Monde.
Daniela Marcheschi, quelle est la langue de Pinocchio?
C'est la langue d'italien d'aujourd'hui et c'est étonnant pour nous. Et c'est une langue capable d'établir une relation entre la tradition, la grande tradition de la culture, de la langue toscane aussi, et quelque chose de naturel, quelque chose de très, très particulière. Mais il faut même dire qu'il utilise une langue du passé. Par exemple, ma grand-mère, qui était née en 1902, elle ne pouvait pas m'expliquer les mots « tornagusto », « amuse-gueule », parce que « tornagusto » était déjà un vieil mot à son temps.
Et c'est un mot qui paraît dans Pinocchio ?
Oui, oui. À propos des grands repas de renard et du chat.
Dans l'auberge ?
Oui.
L'auberge, comment elle s'appelle, déjà ?
Gambero Rosso.
Come ti chiami?
Inocchio.
Sei proprio te. Oddio. Oddio, oddio. Mi è nato un figlio. Pinocchio! Pinocchio!
Il y a une caricature très intéressante où Collodi a été représenté comme un jeune homme maigre, longs cheveux, une mèche, en train de montrer sa langue à l'auteur du célèbre dictionnaire Fanfani. Fanfani était un expert de linguistique et il examine la langue de Collodi et s'exclame « Cacophonie, catacrèse, heureux, protubérance orthographique, etc. » Et ça signifie que Collodi paraissait un révolutionnaire pour son style modelé sur la langue parlée. Ça a été étonnant pour ses contemporaines.
Hey, vado bene per il mare?
Il connaît une enfance libre, une enfance à Collodi, faite de liberté, faite pour courir à droite et à gauche en compagnie des amis et tout autour de la campagne.
Si vous aviez une biographie de Carlo Collodi à écrire, Jean-Paul Morel, par quel épisode commenceriez-vous?
Peut-être par la fin, puisque tous ces documents ont disparu. Donc le mystère Collodi... Quelle est sa vie, puisque on n'a pratiquement plus aucun document privé.
Des lettres brûlées, pas de correspondance.
Ah oui, les lettres et même des manuscrits apparemment. Enfin, Collodi a beaucoup écrit et on n'a aujourd'hui que ce qui a été effectivement publié.
À quoi ressemble le pays de Collodi?
C'est un village extraordinaire. Mais l'important, c'est le château qui est au pied de ce village. C'est un village qui monte à une porte encore plus forte que Mont-Saint-Michel, qui est dominé par un énorme château où, en fait, les parents de Collodi étaient, femme de chambre et lui, plus ou moins cuisinier, quoi.
Avant d'être un pseudonyme et un nom de plume, Collodi est le nom d'un village en Toscane. C'est le refuge maternel de Carlo et le lieu où ses parents se sont rencontrés au service d'un marquis.
Marquis Garzoni Venturi et le marquis Ginori.
Le marquis reproche au grand-père de Carlo une mauvaise gestion de ses terres et demande à être dédommagé, à être remboursé.
Oui.
Carlo Collodi ne va jamais oublier cette histoire.
Non, jamais, jamais. Il a toujours représenté la classe aristocratique comme une classe parasite, pas moderne, conservatrice, ennemie du progrès et de réformes sociales. Il l'a représenté comme une classe corrompue et ça veut dire qu'il n'a jamais oublié ce terrible événement pour la famille. Ils ont connu la misère, ils ont connu la manque de tout.
Collodi a vécu un long 19e siècle, du début des années...
Gilles Pécou.
Du milieu des années 1820 à 1890, où l'Italie est un pays essentiellement rural, un pays agricole, et où la vie n'est pas facile pour ces sociétés rurales, bien qu'à l'époque, bien que la période de vie de Collodi est connu un grand nombre de modifications de la situation des campagnes italiennes. Pour Pinocchio, le souci de manger est un souci quotidien. J'ajouterai qu'en plus, les années qui marquent la rédaction et la publication de Pinocchio sont les années d'entrée dans la crise agraire de fin de siècle.
Aprite! Aprite per piacere!
In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti.
Aprimi almeno tu!
Sono morta anch'io.
Morta? Allora cosa fai lassù alla finestra?
Aspetto la bara che venga a portarmi via.
Ci sono gli assassini! Mi vogliono uccidere! Mi vogliono uccidere! Aiuto!
Alors apparut à la fenêtre une belle petite fille aux cheveux bleus, turquoise. Le visage blanc comme une figurine de cire, les yeux clos et les mains croisées sur la poitrine. Sans du tout remuer les lèvres, elle lui dit d'une petite voix qui semblait venir de l'au-delà. « Il n'y a personne dans cette maison. Ils sont tous morts. « Ouvre-moi au moins, toi !» cria Pinocchio en pleurant et en la suppliant. « Je suis morte, moi aussi. Morte !»
Le rapport à la mort, il est quand même... Lorsqu'il rencontre la deuxième fois la fée sous la forme d'une petite fille, il est poursuivi par des bandits... Et il tape à la porte, personne ne répond, une fenêtre finit par s'ouvrir. Une petite fille apparaît et dit « Mais ici, tout le monde est mort. Voyez pourquoi tu ouvres la fenêtre ?» C'est-à-dire que vous avez à chaque fois, il y a une utilisation de la situation absurde. C'est pas Lévis-Carroll, ça qui est intéressant, c'est pas vraiment le monde à l'envers de Lévis-Carroll, vu de l'autre côté du miroir. C'est le monde réel vu volontairement de manière théâtrale.
E dove si possono ammirare tutte queste meraviglie create dal signor Mangiafuoco?
Dentro!
Solo 4 soldi e potrete ammirare il più grande spettacolo del mondo prima della partenza per le lontane Americhe. Militari e bambini,
entrate, 4 soldi!
Prego, accomodarsi, coraggio!
Les aventures de Pinocchio, storia di un burattino. Burattino, vous le traduisez par pantin, Laurence Schifano?
Oui, je crois. Plus que marionnette. Et d'ailleurs, les traducteurs se sont arrêtés au terme de pantin. Pourquoi cette différence? La marionnette évoque bien souvent, bien qu'il y ait des marionnettes à gaines, elle évoque plutôt les fils. Et à part Walt Disney dans son adaptation, la marionnette ou le pantin Pinocchio est sans fil, ce qui lui permet plus
de
rapidement
courir.
De courir et puis aussi d'être aussitôt en fait rapproché d'une figure qui est une figure humaine, d'une figure quasi organique. C'est ce qui fait aussi sa modernité parce qu'il va assez facilement donner naissance à des créatures animées au cinéma avec des procédés qui sont des procédés techniques que nous avons actuellement et qui sont tous les effets d'animation par ordinateur.
Oui, guardate qui ci sta laggiù in platea. Chichino con vestite carte.
Stefano, vedi Pinocchio.
I nomi del firmamento, sogno son questo. Ma quello gli è proprio Pinocchio.
Ma sì, è proprio lui.
Oh Pinocchio, vieni qua.
È il nostro fratello Pinocchio.
Pinocchio, vieni a gettarti fra le braccia di tuoi fratelli burattini.
Sei un burattino come noi, Pinocchio.
Sei di legno come noi, Pinocchio.
Lo sappiamo che sei di legno.
Dai Pinocchio, vieni.
Pinocchio, 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 Pinocchio.
Les marionnettes reconnaissent leur frère Pinocchio et lui font une gigantesque fête. Mais au plus beau moment surgit Mangiafuoco, le montreur de marionnettes. Et Pinocchio court le risque de mal finir.
Dans Pinocchio, Collodi qualifie les marionnettes de foule dramatico-végétale.
Oui.
Les éléments sont très importants chez Collodi. L'eau,
oui.
Le feu,
oui. Ça, c'est magnifique parce que à partir de cette définition, ça signifie qu'il a un sentiment immédiat de la dimension mythique de ce personnage. Et il est vrai que ce qui me frappe beaucoup et ce qui fait peut-être de ce mythe un mythe qui va bien au cinéma, c'est qu'on a besoin d'un espace, on a besoin de la terre, on a besoin de l'eau, on a besoin de ces éléments qui sont tout autour de Pinocchio et qui vont accompagner son initiation. Et il y a un film qui peut-être a plus que les autres encore développé cette dimension symbolique, c'est le film de Spielberg réalisé en 2001 et qui nous amène à découvrir notamment un monde de Pinocchio englouti dans un océan et qui ensuite est un océan qui va être gelé, qui va être réveillé 2000 ans après par des créatures qui sont des espèces de créatures d'extraterrestres qui vont réchauffer ce monde et le faire revivre. Donc on est là dans une dimension qui est une dimension cosmique.
Mais vous savez, Collodi est un homme des villes.
Collodi honore, célèbre la culture populaire
oui.
de l'Italie.
Oui, c'est un conte oui. folklorique, un conte qui, en effet, inventorie, célèbre la culture populaire. La Toscane rurale de Collodi, qui est un citadin, c'est la Toscane rurale qui porte tout ce qu'il pourrait y avoir de mesquin et de petit dans le souvenir de la vieille Toscane, de la Toscanine. Et Collodi n'est pas un nostalgique.
Daniela Marcheschi, quelle est l'influence de l'oncle maternel Giuseppe sur le jeune Carlo ?
C'est une influence très positive parce que Giuseppe Orzali est un peintre, il aimait l'art, il avait des relations sociales, culturelles très très intéressantes, très importantes avec les intellectuels les plus importants de l'Italie. La librairie Piatti a été l'université de Carlo Collodi, parce que la librairie a été le centre de la culture à Florence. Les étrangers, les Italiens, Collodi, Guerrazzi, Nicolini, Pananti, tous les intellectuels meilleurs ont été là.
Collodi est un homme du Risorgimento. Il a participé après 1800, au moment de 1848, au mouvement intellectuel lui-même, aux auteurs de satire, enfin, donc il y a un mouvement intellectuel qui devient par le fait un mouvement politique. Et c'est aussi un homme et un protagoniste du Risorgimento, parce qu'il a participé activement et militairement aux événements du Risorgimento, passant du versant intellectuel et politique au versant militaire. En effet, Collodi a été volontaire.
Et s'il y a... En mars 1848. Alors il s'engage dans les bataillons des volontaires florentins.
Oui, toscans et florentins, oui.
Et qui va-t-il combattre à Montanara ?
Il va combattre les Autrichiens dans la première guerre dite d'indépendance. Et le mouvement des volontaires toscans, notamment des étudiants, d'abord de l'université de Pise, puis des florentins, est un des mouvements les plus célèbres en Italie pendant la guerre de 1848-49. Ce sont eux qui ont payé l'un des tributs les plus lourds. Et il n'est pas de ville en Italie, et principalement en Toscane, qui n'ait sa rue Via Curtatone Montanara, rue de la bataille de Curtatone Montanara.
Deux batailles.
Deux batailles, qui sont des batailles données, perdues, par les volontaires toscans. Les Autrichiens ont gagné, mais je ne devrais pas dire perdu, parce qu'elles relèvent de ce qu'on appelle les défaites glorieuses du Risorgimento italien, les disfatte gloriose. On peut se demander pourquoi une défaite devient glorieuse en Italie. Et mon idée est qu'une défaite est d'autant plus glorieuse que la bataille a été menée par des jeunes volontaires qui ont vraiment payé de leur personne, étudiants, intellectuels, comme Collodi, et son frère, Paolo.
Premiers articles signés elle, comme Lorenzini, concernent le milieu du théâtre, la musique italienne et le renouveau des arts en Italie. Quel rôle Collodi accorde-t-il à l'opéra ?
Ah, il a un rôle très très important parce que l'opéra était la tradition la plus populaire en Italie, où tout le monde pouvait se reconnaître. Donc quelque chose de commun à tout le genre de l'Italie. Et ça a été très, très important. Il a fait beaucoup de critiques très intelligentes sur Rossini, la musique de Rossini, de Donizetti, de Verdi.
Dès 1848, il crée un journal qui s'appelle Il Lampione. Et le titre est très significatif. Il Lampion, le lampion, c'est la petite lampe qui annonce la vérité. Ah, c'était une image d'ailleurs très engagée politiquement. C'est les premières lueurs du Risorgimento qui vont ensuite s'amplifier dans une lumière de la vérité. Donc il travaille, si vous voulez, pour un éclaircissement de la situation politique et de la situation humaine. Fondamentalement, c'est un homme de vérité et d'engagement.
Risorgimento, c'est un mot qui vient du verbe risorgere,
oui,
qui signifie se relever,
oui,
renaître et même ressusciter.
Tout à fait. Si on n'a jamais vraiment traduit risorgimento par renaissance ou résurrection en français, c'est parce que le lexique de la Renaissance était déjà pris, si j'ose dire, et le lexique de la résurrection ne plaisait pas beaucoup. Donc on a préféré garder le terme de réveil national ou même de risorgimento en utilisant le mot italien. Risorgimento, ça veut dire véritablement éveil de la conscience nationale italienne, et cet éveil de la conscience nationale italienne, il a besoin de se traduire, et il se traduit militairement et politiquement par la constitution de l'unité qui a lieu entre 1848 et 1861, puis 1870. Je dis 1861 et 1870 parce que le royaume d'Italie est proclamé en 1861, l'État nouveau italien naît, mais il faut attendre 10 ans pour qu'à ce royaume nouvellement constitué corresponde le territoire italien, celui de la péninsule, de la Botte, dans son intégralité ou dans son intégrité.
Après avoir signé pendant une dizaine d'années de journalisme L ou ZZTZ, Lorenzini a-t-il besoin du pseudonyme de Collodi?
C'est une façon pour se dédoubler, mais aussi c'est quelque chose pour, pour faire semblable d'être plusieurs.
Il avance se masquer et démasquer, tout le plaisir est dans le moment où l'on jette le masque, mais
Jean Perrault,
il est évident qu'en tant que Florentin, il ne pouvait qu'aimer les masques. Dans un de ses articles, dans une des revues, il montre les Florentins animés par la fièvre du masque, une frénésie du masque. Et les masques, évidemment, apparaissent dans les bals, non seulement dans son œuvre, mais aussi dans ses chroniques littéraires, dans ses chroniques musicales, où il parle évidemment des événements de la vie quotidienne. Donc c'est à la fois par jeu, par mode, par goût, par stratégie politique, et finalement, on va le voir, par technique littéraire, puisque dans Les Mystères, le personnage a un masque, et on le voit, ça permet une provocation. On envoie des billets de propagande politique du haut des balcons.
Les Mystères de Florence, c'est le roman du Risorgimento?
Oui, c'est un roman important. Bon, c'est là-dedans qu'il raconte quand même un certain nombre d'événements sur les révolutionnaires de l'époque qui ont essayé de chasser les Autrichiens. On a des descriptifs de réunions secrètes dans les auberges. C'est assez précis. Hein. C'est vraiment dans le ton des romans feuilletons français de la même période. Pas misérabiliste, c'est pas Les Misérables de Victor Hugo, c'est pas non plus Les Misères de Paris. Ça se passe plutôt globalement, en plus, dans l'aristocratie florentine. C'est ça qui est assez étonnant.
Collodi veut étaler la vérité.
C'est éliminer les occupants, hein, c'est clair.
Il a créé une revue qui s'appelle Scaramuccia. Et sur la première de couverture, il y a le Scaramouche, un personnage qui est énorme, là, avec des bouteilles de vin de chaque côté. Et on sait que Collodi aimait le vin d'une manière assez appuyée. Et donc, c'est un peu lui aussi qui est en scène, là. Donc, c'est à la fois de la provocation, parce qu'il y a une caricature de lui-même, une autodérision. Et en même temps, c'est un moyen de parler aux Florentins à travers les masques, on parle de masque à masque. Et la vérité, elle sort de la bouche des masques, enfin des bouches de vérité, des bocas de vérité qui se trouvent dans certains lieux.
Scaramouche, c'est un personnage de la Commedia dell'arte.
C'est ça, oui. Scaramouche, c'est une sorte d'homme de guerre qui a des rodomontades, qui est extrêmement truculent, qui boit et qui est très provocant en même temps.
Voilà.
Le vadimécum du jeune homme, dit aussi Manuel à l'usage des jeunes sans expérience. Qu'est-ce que l'homme ? Un animal raisonnable. Pourquoi l'appelle-t-on raisonnable ? Parce qu'il ne raisonne presque jamais. Qu'est-ce que la femme ? Un rébus sur deux pieds. Quelle est la patrie la plus noble de la femme ? La bottine. Pourquoi le sexe masculin s'appelle-t-il le sexe fort ? Parce que d'ordinaire, il est plus faible. Qu'est-ce que l'amour platonique ? Une histoire drôle qui ne fait pas rire. Qu'est-ce que l'amour ? Un moyen comme les autres de tuer le temps. Qu'est-ce que le mariage ? Une tuile qui vous tombe perpendiculairement sur la tête. Quelle est la femme qui dit le moins de mensonges ? Celle qui fait le moins l'amour.
Carlo Lorenzini, c'est son vrai nom. Taille, oui. 1m69, cheveux blond foncé, sourcils idem, yeux bichi. Ça veut dire quoi, bichi ?
Une couleur entre le gris et le bleu.
Front haut, nez régulier, bouche moyenne, menton rond, visage allongé, couleur naturelle.
Oui, ni pâle ni rouge.
Carlo Collodi est en somme un beau garçon.
Oui, peut-être oui. Les femmes l'aimaient beaucoup.
Qu'est-ce qu'une passion ? Un prétexte quelconque pour excuser quelques grosses bêtises que nous avons faites. Qu'entendez-vous par joie conjugale ? Un enfant qui pleure toute la nuit, un autre qui joue sur vos genoux et vous arrose d'une tiède rosée, un fils qui vous apporte la liste de ses dettes, une femme qui vous fait des caresses et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'une petite fille ? C'est le piège sous les fausses apparences de l'innocence.
Collodi, comme Garibaldi, du reste, se rendent compte, et c'est en cela qu'il devient garibaldien, que la fin justifiant les moyens, il faut bien faire alliance, il faut devenir monarchiste, d'où l'expression qui est souvent donnée pour qualifier Garibaldi, ou qui sera donnée ultérieurement, qui est celle de révolutionnaire discipliné, rivoluzionario disciplinato. Eh bien,
on peut dire la même chose pour Collodi.
On peut dire la même chose pour Collodi, à supposer qu'il ait jamais été révolutionnaire et qu'il puisse se discipliner un jour.
Lorsque la guerre est finie, Collodi rentre à Florence, mais il n'est plus le même, il a changé. Il s'installe auprès de sa mère et de son frère. Il est sombre, il boit, il joue, ce qui ne l'empêche pas d'écrire encore et toujours dans les journaux. Mais ses articles sont de plus en plus amers, qu'il s'agisse de l'insuffisance des partis politiques, de la naissance d'une bourgeoisie morale ou de l'amour. Comment expliquer ce changement ?
Oh, le changement est dû peut-être à la manque d'illusions après la fin de la guerre, un amour qui lui donne beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés pour avoir un travail, difficulté pour avoir une destinée dans la vie. C'est un amour qui, pour une femme de la très haute société de Florence, mais la femme n'a pas le courage de laisser les maris et d'affronter, supporter le scandale. Et elle laisse Collodi dans la souffrance, mais de cette union est née une fille qui est morte, malheureusement, très jeune.
Et la petite fille est morte de quoi?
On ne le sait pas. Mais tout le monde savait ça. Et le neveu Paolo Lorenzini, l'écrivain pour l'enfance, raconte ce scandale dans la vie de Collodi.
Et le nom de cette femme, on le connaît?
Non, on ne connaît pas le nom. On sait seulement qu'elle appartenait à une riche famille de Florence.
Fellini parle de Pinocchio à propos de Casanova, Pantin aussi. Même fuite en avant, errance, recherche d'accomplissement.
C'est très très intéressant parce que ça signifie aussi que l'interprétation qu'il a donnée de Casanova comme un enfant prolongé, un enfant immature, nous permet de retrouver un des grands thèmes de Fellini, une façon qu'il a de raconter en fait l'Italie à travers des personnages d'hommes, surtout d'hommes, qui n'arrivent pas à grandir et qui sont toujours à la recherche d'une mère qui est évanescente, qui est fuyante et donc qu'il est frustre de sa présence. Et en même temps, ce que nous n'avons pas chez Pinocchio, évidemment, c'est ce qui se traduit dans le côté obsessionnel d'une quête qui passe chez Casanova par l'érotisme, par la sexualité. Et donc chez Pinocchio, cette dimension est évidemment absente.
Raccontami sinceramente tutto quello che ti è successo.
Mattina mia, io volevo andare a scuola, ma ho perso la strada. Aiuto, fatina mia, guardami il naso, cosa gli è successo?
Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie. Quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo. E le tue, per l'appunto, sono di quelle che hanno il naso lungo.
Sì, ho detto una bugia, a scuola non ci sono andato perché ho perso l'abecedario.
A ce troisième mensonge, son nez s'allongea d'une façon si extraordinaire que le pauvre Pinocchio n'arrivait plus à se tourner ni d'un côté, ni de l'autre. Et s'il levait un peu trop la tête, il risquait de la planter dans l'œil de la fée. La fée le regardait et riait.
Dans la mythologie italienne, il n'y a pas de fée. La fée est une importation nordique. Donc, c'est assez étonnant. Il réussit à imposer dans la mythologie italienne, un individu qui n'est pas du tout adapté au climat, si je veux dire.
Et alors, cosa succede?
Sono i miei amici uccellini che ti beccheranno il naso, così ti accorcerai e tu tornerai come prima.
Ma io non voglio restare burattino neanche col naso corto.
Abbi pazienza e vedrai.
Pour les Italiens, quand même, il y a eu cette traduction des contes de Perrault et de Madame d'Aulnoy et de Madame de Beaumont. Madame d'Aulnoy, c'est vraiment le baroque flamboyant. Vous voyez le oiseau bleu, la chatte blanche, il y a des métamorphoses. La chatte blanche, elle revient au milieu d'un rocher de cristal paré de plumes de paon. Enfin, il y a vraiment eu un éblouissement de la couleur.
Donc la littérature pour enfants, elle existe déjà
Elle existe, mais
avant
c'est une littérature très moralisante, très pédagogique.
Religieuse, avec des miracles.
Religieuse, oui.
Mais pas le droit à la féerie.
Pas le droit à la féerie, non. Il a ramené, si vous voulez, dans la littérature italienne pour la jeunesse, cette flamme qui était arrivée en France plus tôt, à la fin du XVIIe siècle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu un renouveau de l'imaginaire littéraire en Italie à cause de Collodi. La féerie, c'est le théâtre de Lully, vous avez des chars qui montent au ciel, hein, tout ça ce sont des machines, donc les machines baroques, et dans la baleine dans Collodi, c'est une machine baroque énorme. Et il est donc avalé par la baleine, par le requin baleine, si vous voulez, et il trouve son père, et là, du fond de l'estomac de la baleine, ils vont voir une lueur qui est le ciel qu'on voit avec la lune de l'intérieur. Et donc, ils vont se diriger vers la lumière. Et donc, c'est dans une machine, si vous voulez, baroque, qui amène le sujet à la lumière, c'est-à-dire qui le ramène à la vie correcte, après être passé dans des épreuves, qui sont des épreuves merveilleuses, mais qui font qu'il est passé aussi, vous parliez du pêcheur, à travers la couleur verte du pêcheur, de la mer, du poisson, il a été emballé, si je puis dire, dans les filets, dans les algues du poisson, et ensuite il va émerger donc vers l'état de l'humanité, après avoir été lui-même un âne, etc.
Dans les rues, c'était la fête, un vacarme et des cris à vous rendre fou. Des bandes de garnements jouaient partout, qui aux osselets, qui à la marelle, qui à la balle. Certains faisaient du vélocipède, d'autres étaient montés sur des chevaux de bois. Il y en avait qui déclamaient, d'autres qui chantaient, d'autres faisaient des sauts perdus ou s'amusaient à marcher en faisant le poirier. Certains jouaient au cerceau, cependant que d'autres se promenaient vêtus comme un général, avec un casque en papier et une épée en carton.
Lorsqu'il écrit pour les enfants, Collodi, il change de plume. Et quelles sont ses recettes?
Alors, là, c'est ce qui, pour moi, est étonnant. Il ne change pas de plume. Quand on lit vraiment de près Pinocchio, c'est une écriture surtout en dialogue. Et donc, l'important surtout pour les traductions françaises qui ont été mal faites après, c'est du dialogue de théâtre, forcément, de marionnettes. L'objectif, c'est quand même ça. Pinocchio, il n'est pas marionnette, pantin par hasard. C'est une marionnette, donc il faut des dialogues de théâtre de foire.
La mise en scène de Comencini est traitée avec des mouvements de caméra qui sont des mouvements très fluides et donc qui permettent de traduire avec des couleurs magnifiques la jubilation, l'euphorie des enfants, la liberté et surtout l'extraordinaire richesse visuelle en couleurs, en beauté aussi des présences. Donc il s'agit d'un univers qui est un univers d'illusion merveilleuse, d'illusion de n'avoir de compte à rendre à personne, d'être simplement sur terre pour jouer. Et donc c'est un très beau rêve d'enfance qui se traduit là en très belles images. Et après ce grand mouvement très fluide avec un travelling latéral qui est très très long, tout à coup il y a un plan avec un montage sec qui succède et le réveil avec presque des images de guerre, presque des images qui sont des images de ruines. Et donc il y a ce réveil qui est un réveil poignant et au terme duquel, se regardant dans une mare qui le reflète, le pauvre Pinocchio voit qu'il est transformé en âne. La séquence est très belle, elle est très forte, elle n'a pas besoin d'être accompagnée de paroles, hein. C'est quelque chose qui est immédiatement présent et d'une immédiate compréhensibilité.
Mais le moment le plus affreux pour ces deux misérables, savez-vous quand ce fut? Le moment le plus affreux et le plus humiliant, ce fut quand ils sentirent une queue leur pousser par l'arrière. Écrasés alors de honte et de douleur, ils tentèrent de pleurer et de se lamenter sur leur sort. Jamais ils n'auraient dû le faire, car au lieu de gémissements et de lamentations, ils se mirent à pousser des braiements d'armes. Hi-han, hi-han, hi-han.
Dove credevate di andare? Oh, grulli!
Pinocchio, c'est une figure de l'artiste?
C'est plutôt une figure de l'aventurier. Elle s'inscrit dans la lignée du Picaro. Mais c'est un être de pulsion avant tout. C'est un être qui doit souffrir pour arriver à la dignité humaine. Si l'artiste doit souffrir, ben c'est une vie de souffrance, c'est évident.
Collodi commence à écrire pour les enfants parce que il y avait des éditeurs très actifs et il écrit quelque chose pour les enfants. Le sujet est libre, mais il s'agit aussi d'une commande parce que Martini, c'est-à-dire le directeur du journal Per i Bambini, du journal pour les enfants, lui demande quelque chose. C'est le premier journal italien destiné à l'enfance. Donc, c'est un événement très important.
Non, mais fais mal.
Les assassins continuent à poursuivre Pinocchio. Ils finissent par le rattraper et le pendent à une branche du grand chêne.
Non, mais il fait mal, tu as dit.
Les petits lecteurs ont demandé de nouveaux épisodes. Et donc, les succès de l'histoire a obligé l'éditeur, le directeur du journal pour les enfants, a demandé à Collodi de continuer le travail.
Est-ce que le pantin pouvait courir encore infiniment? Il était temps qu'il se transforme, sinon il se serait usé et les petits lecteurs se seraient fatigués.
Et le vieux Pinocchio de bois, où se sera-t-il caché? Le voici, là, répondit Geppetto. Et de lui montrer un grand pantin appuyé contre une chaise, la tête tournée de côté, les bras ballants, les jambes croisées et à moitié repliées, à croire que c'était un miracle qu'il tint encore debout. Pinocchio se retourna pour le regarder, et après l'avoir un peu regardé, il se dit en lui-même avec une très grande complaisance « J'étais vraiment un bouffon quand j'étais un pantin. Comme je suis content maintenant d'être devenu un petit garçon pour de bon. »
Pourquoi Collodi a-t-il autant de difficultés à mettre un point final aux aventures de Pinocchio? Ne souhaite-t-il pas que le pantin devienne un enfant pour de bon?
Un enfant comme il faut. Per bene, ça veut dire sérieux, qui fait ses études, qui travaille. Si on lit la fin des aventures de Pinocchio, on peut observer qu'il y a après per bene, un enfant comme il faut, un point d'exclamation et des points de suspension.
Oui.
Donc, il s'agit d'un signal ironique, comique, satirique. Ça veut dire qu'il y a la possibilité que l'enfant devienne de nouveau un pantin. Comencini a bien compris l'ambiguïté de la fin des aventures de Pinocchio. Entre le pantin et le garçon, il y a une relation, on peut dire, interactive. Ce n'est pas pour rien que Collodi continue les aventures de Pinocchio avec un autre roman qui s'appelle Pipi ou La petite singe couleur de rose, où il y a une histoire parallèle. Le protagoniste, le petit Alfredo, était un pantin qui s'appelait Pinocchio et la mère d'Alfredo était une bonne fée bleue.
Donc Collodi a besoin de donner une suite à Pinocchio.
Eh oui, pour affirmer que les pantins ne deviennent pas un enfant comme il faut. Il n'est pas sûr. Cette transformation n'est pas sûre. Et donc, il y a une liberté du pantin qu'il faut sauver. C'est quelque chose de plus ambigu. On ne devient pas comme il faut. Non, jamais. Il faut toujours garder cette liberté vers le monde.
C'est ça la philosophie de Pinocchio.
Oui,
oui,
oui. C'est une histoire de libération, pas de consolation. De libération, ça veut dire que l'homme adulte doit garder la liberté de l'enfance, l'anarchisme de l'enfance.
Collodi a marqué la littérature enfantine italienne par son souci d'écrire aussi, et là c'est très frappant, des ouvrages pédagogiques, de renouveler le genre pédagogique. Chez Collodi, il y a un souci qu'il a illustré en réécrivant un classique de la littérature scolaire de l'époque. Le livre s'appelait Gianetto, et il était des années de la Restauration, le plus premier classique de la littérature scolaire enfantine italienne, par Paravicini, un Lombard, et lui l'a republié, en ajoutant plusieurs chapitres, sous le titre de Gianettino. C'était déjà Jeannot et c'est devenu le petit Jeannot. Ajouter un diminutif de plus, ça c'est la fantaisie de Collodi. Alors, bien sûr, dans Les aventures de Pinocchio, ce n'est pas une pédagogie conformiste. Parce que le pilier d'une pédagogie conformiste à l'époque, c'est qu'un enfant fait confiance à un adulte. Et dans Les aventures de Pinocchio, c'est dur de faire confiance à des adultes. Hein. Franchement, je ne sais pas si c'est le vrai roman d'initiation pour cela. Et là, tous nos amis critiques des visées pédagogiques de Pinocchio ont raison. L'adulte n'est pas la référence.
C'est le renversement.
C'est le renversement total.
C'est Pinocchio qui prend par la main son père.
Absolument, et qui déjoue la fraude des adultes. Là, s'il y a une subversion, il me semble, dans la trame, que nous pouvons la trouver à ce niveau. La pédagogie au XIXe siècle, c'est l'idée qu'on peut améliorer les enfants. Alors là, ce ne sont pas les adultes qui les améliorent, mais ils s'améliorent eux-mêmes. Cela me semble assez fort comme leçon de la parabole de Pinocchio.
Pinocchio! Il mio burattino! Pinocchio, figliolino mio! Che t'hanno fatto? Che t'è successo, figliolo?
Le succès réel de Collodi, il date du rachat de la première maison d'édition par Bemporad en 1911. Hein. Du vivant de Collodi, il s'en est pas vendu énormément. C'était entre 2000 et 3000 exemplaires. Hein. Alors aujourd'hui, effectivement, on est étonné parce que c'est un des best-sellers mondiaux. Je ne sais plus à quelle place il est par rapport à la Bible, mais il n'est pas loin. Non, c'est vraiment, il est traduit dans toutes les langues.
Le premier Pinocchio date de 1911, donc la première adaptation date
il est italien. Hein, c'est
oui, c'est
italien ouais.
Et il y a
film muet.
Oui et
colorisé.
Colorisé de Giulio Antamoro, donc qui dure 40 minutes, ce qui est quand même en 1911 un film d'une longueur assez étonnante, et ça correspond bien aussi avec le standard du muet puisque nous avons des tableaux qui se succèdent comme on procédait à l'époque. Et cette construction par tableau me semble très caractéristique du mode de narration d'abord, et puis ensuite il y a la richesse des images, l'élément synthétique aussi dans les dialogues. Les dialogues sont d'une beauté et d'une force étonnante, au point que le philosophe Giorgio Agamben a tiré un titre d'un des dialogues entre Pinocchio et Geppetto, lorsque Geppetto, dans son atelier de menuiserie, se tourne tout à coup vers le pantin et que les yeux du pantin s'animent. Et il y a cette phrase de Geppetto, « Occhiacci di legno, mauvais yeux de bois ». Pourquoi me regardes-tu ? Et il y a ce regard de Pinocchio synthétisé dans un dialogue qui est un dialogue essentiel.
Il était le journaliste, l'écrivain qui n'était pas servile. Il était libre. Il a critiqué, il a montré les problèmes de l'Italie sans de peindre de pouvoir, de quelque classe, de quelque intérêt, etc. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'expérience de Collodi. L'Italie n'est pas devenue un pays moderne. L'Italie doit toujours devenir ce que Collodi a dit tout le temps. Et certainement, la chose la plus importante de l'écriture des aventures de Pinocchio est d'avoir gardé la pluralité des cultures italiennes. Et c'est pour ça, je crois, que Pinocchio est un texte exemplaire de la littérature du monde entier.
Il y a une actualité dans le Pinocchio de Collodi aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est le corps, c'est tout ce qui se dit de l'origine et de l'identité des corps et de la transformation des corps et du passage à la mort. Enfin, tout ça est très très présent. Et puis bon, il peut y avoir aussi des choses plus, à mon avis, plus anecdotiques, hein, comme le passage de l'enfance à l'âge mûr. Mais je crois vraiment que c'est un mythe collectif. C'est pas simplement un mythe individuel. Il y a cette question des origines, il y a cette question de l'identité aussi, c'est-à-dire être acteur, jouer, être dans le jeu ou rentrer dans les obligations morales, hein, ce que vous avez appelé la vision morale du monde, avec un personnage qui est un personnage aussi absolument fascinant, plus c'est vrai dans les adaptations que chez Collodi, c'est l'acteur. Ça passe par... cette créature qui est une créature de l'entre-deux, qui est l'acteur, qui est à la fois dans les règles, mais qui en même temps est une créature extraordinaire. Je suis très frappée aussi par le fait que Benigni essaye dans son film d'être un enfant. C'est étonnant cette façon qu'a l'acteur de retrouver ou d'essayer de retrouver la voix de l'enfant. Et puis, c'est le mythe de la perte, tout ce qui est la perte du paradis, la perte de nos origines et la nécessité où nous sommes en restant fidèles à l'enfance et même à l'esprit d'insubordination de l'enfance. Donc, il me semble que là, le mythe de Pinocchio est un mythe qui doit nous accompagner, je ne dis pas simplement qu'il nous accompagne, mais qui est véritablement un rappel à l'ordre pour éviter que nous ne nous perdions dans trop d'artifices et dans trop de considérations de l'efficacité à tout prix. C'est une leçon de liberté.
Pinocchio.
Ce pantin est toujours bien vivant, mais si par malheur il n'était pas vivant, ce serait le signe qu'il est mort pour de vrai. Pinocchio, qui jusque-là alors était resté immobile comme un vrai morceau de bois, eut une sorte de frisson convulsif qui secoua tout le lit. Ce pantin-là, poursuivit le grillon qui parle, est un fifi coquin. Pinocchio ouvrit les yeux et le referma tout aussitôt. C'est un polisson, un paresseux, un vagabond. Quand un mort pleure, c'est signe qu'il est sur la voie de guérison, déclara solennellement le corbeau. Je suis désolé de contredire mon illustre confrère et ami, ajouta la chouette, mais pour moi, quand un mort pleure, c'est signe qu'il regrette de mourir.
Tétati, grillaccio de malagugno!
Tua regola, tutti quelli che si comportano come te finiscono presto o tardi in prigione o all'ospedale.
Ora sì che m'ha stufato.
Carlo Collodi a un vrai talent épistolaire. Il faut voir comment il s'adresse à ses petits lecteurs dans Il Giornale per i Bambini. Mais alors pourquoi donc son frère Paolo va-t-il, après la mort de Carlo, brûler toutes ses lettres, toute la correspondance de Collodi ?
Presque toutes, parce qu'il y a des lettres gardées dans la Bibliothèque nationale de Florence. Mais parce que Paolo n'aimait pas, évidemment, la vie scandaleuse de son frère. Collodi était libre, il aimait beaucoup de femmes. Les contemporains représentent souvent Collodi sur les genoux de prima donne, de cantatrices, d'actrices contemporaines. Donc sa vie était scandaleuse pour la bourgeoisie de son temps. Et c'est pour ça que le frère a brûlé toutes les lettres, presque toutes les lettres d'amour, on présume. On a gardé, par exemple, la lettre de Giulia Sanchioli, une cantatrice de l'opéra très, très, très célèbre à son temps. Et on peut présumer qu'il y avait une liaison dangereuse entre Collodi Et un ami de Collodi, un auteur de comédies très célèbre à son temps, Paolo Ferrari, etc. C'est une sorte de Jules et Jim moderne. Donc, quelque chose de scandaleux à ce temps-là.
Je trouve belle la fin du film de Benigni qu'on a tellement critiqué en France, mais il faut le revoir parce que c'est un film qui possède, qui présente des subtilités, des nuances absolument admirables. Et la fin est superbe. Et il me semble que c'est aussi un très bel hommage à Fellini lorsque l'on voit Pinocchio assagi, qui va donc à l'école. Il rentre en enfant, comme un enfant de chair, dans l'école, mais son ombre reste à l'extérieur et elle continue avec un papillon de se promener dans le monde et de regarder le monde avec un esprit de liberté. Et c'est Fellini qui disait que s'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas l'art. Piano, pianissimo, senza parlare, tutti con venite qua, venite qua.
Carlo Collodi, une vie, une œuvre, par Pascal Charpentier. Avec Daniela Marcheschi, auteur de Collodi ritrovato et de Collodi opere. Jean Perrault, spécialiste de la littérature pour enfants. Jean-Paul Morel, traducteur de Collodi. Gilles Pécou, historien du Risorgimento et de l'Italie. Laurence Schifano, auteur d'une histoire du cinéma italien et de la vie cinématographique des marionnettes. Benoît Daolio, jeune lecteur de Pinocchio. Et avec de nombreux extraits du film Pinocchio de Luigi Comencini. Coordination Anne de Biron, prise de son Marcel Lebrun, Olivier Berotte, Claire Levasseur. Mixage Alain Joubert, réalisation Ghislaine David.
Carlo Collodi aujourd'hui dans Une vie, une œuvre, le papa de Pinocchio, qui est entré dans le monde de la féerie et de l'enfance par le biais de Charles Perrault, puisqu'il a traduit ses fameux contes en italien, c'était en 1875. Et c'est justement de Charles Perrault que nous parlerons la semaine prochaine. Pour finir, signalons qu'en ce moment, les fictions de France Culture préparent une adaptation radio de Pinocchio et qu'elle sera diffusée à partir de dimanche 17 décembre à 17h30 dans le cadre de l'émission Enfantine. Bonne semaine à tous sur France Culture.